Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission. Cette semaine, dans Coémergence, nous parlons des opportunités d'investissement en Angola. L'Angola, c'est une économie d'Afrique centrale très riche en ressources énergétiques, mais qui offre également des opportunités d'investissement dans de nombreux autres secteurs. Comment encourager les relations commerciales et favoriser les investissements entre le Maroc et l'Angola? Nous en parlons au cours de cette émission. Dans le Zoom Express également, nous resterons en Afrique centrale, dans un pays frontalier de l'Angola, à savoir la République démocratique du Congo. Nous irons à Lubumbashi, où se tenait la Semaine des ressources minières. Nous aurons le plaisir d'y retrouver Henri Nzouzi, analyste politique et spécialiste de l'Afrique centrale. Quels sont les principaux sujets de coémergence? Tout de suite, le développement.
Les échos de la semaine.
Direction Abidjan pour retrouver l'un de nos correspondants sur place, Hippolyte Dié. Hippolyte Dié nous parle du secteur des assurances dans ce pays poumon de l'économie ouest-africaine. Les compagnies marocaines d'assurance y sont très présentes, à l'instar des banques d'ailleurs. Essayons d'en savoir davantage dans ce reportage d'Hippolyte Dié.
Les entreprises marocaines s'illustrent de fort belles manières dans divers secteurs d'activité en Côte d'Ivoire. Des télécoms au BTP en passant par l'assurance et le secteur de la banque, ces entreprises se distinguent par la qualité de leurs services. C'est le cas de Wafa Assurance Vie Côte d'Ivoire. Installé dans le pays depuis 2016, le groupe occupe une place importante dans le domaine de la banque assurance avec un chiffre d'affaires de 7 milliards de francs CFA pour 300 000 clients. Fin 2022, cette entreprise qui représente dignement le royaume du Maroc en terre ivoirienne a obtenu un résultat net de 2,4 milliards de francs CFA. Pour confirmer leur leadership dans le milieu, les premiers responsables du groupe ont décidé de passer à une autre phase en innovant avec une nouvelle gamme d'offres dont le lancement s'est effectué à Abidjan en présence de plusieurs acteurs du secteur. Guy Lawson Bodi, directeur général Wafa Assurance Vie Côte d'Ivoire.
Quand on doit confier son argent à un partenaire, à un intermédiaire, il est important d'être sûr qu'on retrouvera cet argent-là au moment où on en a besoin et dans les conditions d'engagement qui ont été prises. Ce qui nous différencie, c'est cela. C'est notre singularité, c'est la volonté de notre groupe d'œuvrer pour le développement du continent africain. C'est la qualité du partenariat Sud-Sud qui nous différencie véritablement des autres compagnies.
Plusieurs chefs d'entreprise, membres de la société civile ainsi que des opérateurs économiques étaient présents à cette importante activité de portée économique. Pour ces derniers, cette innovation du groupe marocain spécialisé dans le secteur de la banque assurance est d'une importance capitale. Saad Hamzaoui.
Au niveau de la Chambre du commerce et de l'industrie marocaine en Côte d'Ivoire, nous allons pousser pour qu'on puisse avoir des contacts très avancés et très poussés avec Wafa Assurance Vie. Et nous allons exhorter nos membres à aller négocier des contrats avec cette belle outil qui est présent envers nous. Et nous sommes fiers qu'une compagnie marocaine puisse être parmi les leaders dans ce domaine d'activité.
Les responsables de l'entreprise ont par ailleurs indiqué qu'ils mettront tout en œuvre pour maintenir son leadership en Côte d'Ivoire et renforcer ainsi les relations économiques entre les deux pays frères. À Abidjan, Hippolyte Dié pour Mehdi 1.
Zoom Express.
Prenons la direction de l'Afrique centrale, plus précisément de la République démocratique du Congo. Nous nous posons tout près de la frontière zambienne, dans la ville de Lubumbashi, qui vient d'accueillir la Semaine des ressources minières en République démocratique du Congo. Nous en parlons avec le spécialiste de l'Afrique centrale, Henri Nzouzi, qui y était présent. Bonjour à vous, Henri Nzouzi. Alors, parlez-nous de cette Mining Week en République démocratique du Congo.
Bonjour Oumar et bonjour à nos auditeurs de Média Radio. Alors la DRC Mining Week, en fait d'abord c'est la 18e édition hein, donc, qui se tient à Lubumbashi en RDC. C'est le rendez-vous des acteurs miniers évoluant en République démocratique du Congo. Et ce de manière permanente, continue. Il y a aussi, bien évidemment, tous les acteurs de la fameuse Copper Belt hein, qui s'étend jusqu'en Zambie. Alors, durant cette Mining Week qui, en réalité, dure 3 jours, vous avez, bien évidemment, l'espace d'exposition, les chapiteaux, vous avez des conférences, vous avez, bien évidemment, des séances B2B qui mettent en relation les différents acteurs du secteur, donc ça veut dire les entreprises, les exploitants, les sous-traitants, qui seront d'ailleurs au cœur de cette 18e édition, hein, faut bien le rappeler, dont le thème principal, finalement, est connaître les victoires, les aboutissements des parties prenantes. Il s'agit en réalité d'une une sorte d'analyse des résultats obtenus lors des éditions précédentes. Donc, on revient un peu aux fondamentaux avec cette édition qui suscite un engouement important, surtout de la part des opérateurs du secteur minier.
Alors, Henri Nzouzi, cela dit, que retenir de cet événement, notamment dans un pays comme la RDC, extrêmement riche en ressources minières?
Alors, il faut savoir que la DRC Mining Week est une formidable vitrine pour les entreprises qui viennent pour exposer leur savoir-faire. C'est aussi une opportunité pour les grands groupes de pouvoir trouver des synergies ou des points de convergence pour, par exemple, booster leur croissance ou leur expansion. Alors évidemment, toutes les parties prenantes sont représentées. Je parlais effectivement des entreprises du secteur, des sous-traitants, etc. Mais vous avez aussi et surtout les pouvoirs publics hein, qui ont un rôle de régulation, un rôle de contrôle vis-à-vis de cette importante activité dont je rappelle quand même le secteur extractif en RDC, c'est plus de 60% du budget de l'État en réalité hein, en termes de recettes. Et c'est donc un secteur extrêmement stratégique, surtout à l'heure actuelle, car vous le savez, nous avons aujourd'hui en Occident notamment un débat important, notamment sur les batteries et leurs sources d'approvisionnement. On pense évidemment au cobalt et au lithium, et la RDC est en première ligne sur ce sujet en tout cas, puisque je rappelle que près de 70% des réserves de cobalt dans le monde sont localisées en RDC. Et donc, ce forum important est donc une opportunité pour tous ces acteurs de se retrouver pour échanger, mais aussi pour promouvoir leur savoir-faire.
Dernière question, Henri Nzouzi. Comment se porte, de façon globale, le secteur de l'industrie minière en République démocratique du Congo?
Alors, s'agissant du bulletin de santé du secteur et de l'industrie des mines en RDC, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 2022, la production minière a été beaucoup plus élevée que prévu et elle a eu notamment comme principale conséquence la résilience hein, dont a fait preuve le produit intérieur brut du pays avec une croissance anticipée d'environ 6,6%. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été constaté au niveau des institutions de Bretton Woods et notamment par le Fonds monétaire international. Cela étant, le secteur est en pleine mutation puisqu'on assiste d'abord à des négociations importantes entre groupes importants. Ça n'a pas toujours été facile. Vous avez également en toile de fond cette renégociation du fameux contrat chinois qui n'est pas terminé et dont on attend bien évidemment les résultats. Alors même si c'est vrai que les recettes budgétaires ont été plus élevées grâce notamment à l'évolution favorable dans le secteur minier, il faut quand même rappeler que l'économie de la RDC n'est pas suffisamment diversifiée. Donc ça veut dire que cette trop forte dépendance vis-à-vis du secteur extractif, donc minier, est pour l'instant le principal talon d'Achille. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir se lancer dans une politique volontariste pour notamment booster l'agriculture et d'autres secteurs pour précisément relâcher un peu la pression dans ce secteur qui dépend aussi étroitement de toute forme d'énergie puisque c'est le principal moteur de croissance pour ces entreprises-là.
Merci à vous, Henri Nzouzi. Je rappelle que vous êtes analyste politique et économique, spécialiste de l'Afrique centrale. Vous nous parliez à l'occasion de la Semaine des ressources minières organisée en République démocratique du Congo dans la ville de Lubumbashi.
Merci infiniment de m'avoir reçu, Oumar, et bien évidemment, je renouvelle mes salutations aux auditeurs de Média Radio. À très bientôt, je l'espère.
Coémergence, l'invité.
Il s'agit de Marco Yava Dalla, il est entrepreneur angolais. Avec lui, nous parlons des opportunités d'investissement en Angola. L'Angola, c'est une économie d'Afrique centrale, très riche en ressources énergétiques, mais qui offre également des opportunités d'investissement dans de nombreux secteurs. Comment encourager les relations commerciales et favoriser les investissements entre le Maroc et l'Angola? Nous aurons donc la réponse avec Marco Yava Dalla. Bonjour à vous, Marco Yava Dalla.
Oui, bonjour, bonjour, monsieur Oumar, bonjour.
Alors, merci. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter l'économie angolaise?
Alors, merci déjà pour cet honneur de m'avoir invité plus tôt. Dans cette émission, parler de l'économie de l'Angola, et nous devons aussi commencer par sa situation géographique. Et bien évidemment, c'est un pays de l'Afrique centrale, on peut aussi considérer austral, voilà. Et c'est un pays qui normalement est limité au nord par la République démocratique du Congo, à l'est par la Zambie et au sud par la Namibie. Bien évidemment, à l'ouest, nous avons l'océan Atlantique. C'est un pays qui a comme superficie, voilà, 1 246 700 km². Sa capitale, c'est Luanda, et le portugais est la langue officielle. Donc, concernant le climat, c'est un pays tropical, voilà, qui connaît de fortes variations de température. Et normalement, le pays connaît des saisons. Nous avons la saison sèche qui commence depuis le mois de juin jusqu'au mois d'août. Et le reste des mois de l'année, c'est la saison des pluies. Voilà. Donc, nous pouvons également dire que les températures au niveau de l'Angola varient entre les 24 à 33 degrés. Et pendant la saison sèche, on peut considérer la saison froide, la température peut descendre en moyenne jusqu'à 17 degrés, voilà. Donc l'Angola, comme vous venez de dire, il y a un potentiel et c'est notre objectif aussi de pouvoir montrer les potentialités et même les opportunités d'affaires. Donc comme je disais tantôt, c'est un pays en termes de ressources, c'est un pays riche en ressources en eau et le climat est favorable aux terres arables qui sont disponibles. Et comme précision, je voulais dire, parmi les 35 millions d'hectares de terres arables, tout simplement 5,9 millions ont été travaillés ou utilisés. 5 millions d'hectares. Voilà, donc je voulais aussi aller plus loin. Mm-hmm. Concernant la production au niveau national, voilà, donc les pays, voilà, elles produisent peu que ce qu'elles demande ou ce qu'elle veut en quelque sorte. Cela veut dire que la production nationale est inférieure par rapport à la demande. Ceci veut dire que les pays, en quelque sorte, on a besoin vraiment d'investissements étrangers, notamment dans certains secteurs que nous allons parler tout de suite.
Effectivement. Donc là, à vous entendre parler, l'Angola est à la fois un pays qui a des potentialités en termes de ressources dans son sous-sol, mais aussi c'est une terre agricole extrêmement donc fertile et qui, curieusement, donc produit moins que ça, c'est disons ses besoins. Ce qui veut dire qu'il y a donc un potentiel de développer l'agriculture en Angola. Certainement, l'agriculture fait partie donc des secteurs porteurs en Angola, puisque j'allais vous demander. Quels sont les secteurs porteurs de l'économie angolaise?
Merci beaucoup. Alors, les secteurs porteurs, je vais commencer par l'agriculture. L'agriculture est le secteur principal en termes d'investissement au pays, mais nous avons aussi ensuite l'industrie transformatrice. On peut aussi considérer, je vais dire, l'agro-négoce. Voilà, donc sont les principaux, mais nous avons également, voilà, les secteurs du tourisme, l'hôtellerie, mais aussi voilà, la construction ou même les transports. Voilà, ce sont les principaux voilà, secteurs porteurs d'investissement en Angola. Mais en premier lieu, nous avons l'agriculture. Pourquoi l'agriculture? Comme je disais tantôt, c'est un pays qui voilà, est en train de pouvoir diversifier son économie, dont le focus est beaucoup tourné vers l'agriculture pour pouvoir transformer beaucoup plus au niveau local. Mmh. Au niveau local et en quelque sorte pour pouvoir aussi diminuer voilà, les importations. Voilà, ceci veut dire que les pays misent beaucoup plus au niveau de l'agriculture et en conséquence attirent aussi beaucoup plus les investisseurs privés, intéressés notamment à pouvoir investir dans ces secteurs. Les investisseurs privés peuvent être des nationaux, mais également des étrangers. Mm-hmm. Voilà, sont mm-hmm. les voilà.
Alors, en dehors de l'agriculture, quel autre secteur est porteur en Angola?
Alors, je vais dire, comme nous connaissons tous, le premier secteur, je voulais dire, c'est le secteur pétrolier. Mm-hmm. D'accord? Mm-hmm. Ça, c'est le premier, je ne l'ai pas cité. Mm-hmm. C'est le secteur où, je vais dire, environ 80% de l'économie du pays est issu de ce secteur. Mm-hmm. Mais à part l'agriculture, on peut aussi considérer, voilà, aujourd'hui, on peut parler aussi du secteur du tourisme. C'est bien évidemment que les chiffres ne sont pas assez élevés, mm-hmm. mais c'est aussi un secteur porteur. Voilà. Mm-hmm.
C'est un secteur
mais nous avons également le secteur du transport. Oui, du transport aussi. Mm-hmm. Nous avons aussi le secteur du transport. C'est mm-hmm. un secteur qui ne cesse pas, en fait, de grandir.
Excellent. Je pense que c'est des indicateurs importants pour les investisseurs. Justement, Marco Yavadala, oui. Les investisseurs, est-ce qu'aujourd'hui il y a un intérêt que vous sentez hein, auprès des investisseurs angolais intéressés par le marché marocain ou bien dans le sens inverse, des investisseurs marocains intéressés par le marché angolais? Quelle est la situation?
Alors, merci beaucoup pour cette question. Je voulais dire, en fait, il y a vraiment un intérêt d'investissement dans les deux sens, même si cela n'est pas encore chiffré, je ne pourrais pas parler avec assez de précision, mais je voulais dire déjà, le Maroc, c'est un pays en termes d'économie ou même d'expertise, avance d'année en année, et du coup, ça permet en quelque sorte les entrepreneurs marocains ou même les entreprises de pouvoir investir dans les autres pays, voilà, notamment les pays d'Afrique. Et il y a vraiment aussi des investisseurs ou des entreprises marocaines qui sont intéressés à pouvoir investir au pays, mais aussi, il y a un autre point que je trouve aussi essentiel, c'est beaucoup plus l'échange d'expertise, c'est-à-dire l'expérience marocaine dans les divers secteurs, surtout l'agriculture et autres aussi, ont cette volonté de pouvoir partager avec voilà, les autres pays. Mais dans le sens inverse aussi, il y a aussi une volonté de certains investisseurs ou entreprises qui ont cette curiosité de pouvoir aussi voilà, connaître davantage les secteurs ou l'économie marocaine. Voilà ce que je peux dire, mais de manière générale, je pense qu'avec un regard commercial, je peux dire que la tendance est beaucoup plus, en fait, dans les deux sens, avoir un certain intérêt d'investissement, voilà, pour le Maroc ou même pour l'Angola. Voilà.
En tout cas,
merci beaucoup.
C'est intéressant. Alors, mec, une dernière question qui me vient à l'esprit, Marco Yavadala. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des initiatives, des acteurs qui essaient d'encourager les investissements dans les deux sens?
Comme je disais au départ, je vais parler précisément de l'Angola. Mm-hmm. En fait, il y a un encouragement d'investissement en Angola, mm-hmm. d'accord? Mm-hmm. Comme je disais, c'est un pays voilà, qui a ouvert son économie pour tous les pays. Pour tous les investisseurs, notamment, voilà. Et l'État ne cesse pas, en fait, de créer un environnement propice pour favoriser l'investissement, notamment, voilà, si nous voulons investir n'importe quel pays, on s'intéresse beaucoup plus aussi à savoir est-ce qu'il y a vraiment des avantages, par exemple, fiscaux, il y a des bénéfices pour pouvoir investir et tout ça. Et l'Angola a ouvert ou a mis en place en fait un cadre juridique qui favorise ou qui donne des avantages fiscaux pour les investisseurs. Dans les domaines de l'industrie, par exemple, il y a vraiment des avantages, mais aussi ceux qui sont tournés vers les secteurs fonciers. Donc, il y a pas mal de bénéfices que les investisseurs peuvent en bénéficier. Mais je pense qu'après, vous pouvez aussi me poser la question. Je ne vais pas encore avancer, mais si je suis là aussi en tant qu'entrepreneur, c'est de pouvoir aussi nous montrer de manière très précise quels sont les bénéfices ou les avantages de pouvoir investir en Angola. Je pense que tout à l'heure, nous en pourrons en parler.
Merci. En tout cas, c'est très clair comme réponse, Marco Yavadala. Je rappelle que vous êtes donc entrepreneur angolais, vous nous présentiez l'économie angolaise, les opportunités d'investissement et les secteurs porteurs et surtout comment encourager les investissements entre les deux pays, le Maroc et l'Angola et avec le reste de l'Afrique, bien évidemment. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci, monsieur Oumar.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Medium Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituel. Bonne suite de programme sur Medium et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah.